Jordanie, jusqu'à la dernière goutte. Épisode 1, tension à la source. Salomé Martin, Nadine Alshaer, Robin Schmitt.
Bord du Jourdain, mai 2024, rive jordanienne. Le cours d'eau n'est accessible qu'à un seul endroit, Béthanie, à l'ouest du pays. Selon les chrétiens, c'est ici que Jésus a été baptisé. Tout le reste de la rivière est militarisé. C'est la frontière avec Israël. À quelques mètres, le drapeau hébreu flotte au gré du vent. Dans ce décor, une dizaine de touristes prennent des photos et trempent leurs pieds dans l'eau.
C'est une merveilleuse expérience. Je suis chrétienne et cet endroit représente beaucoup de choses pour moi. Pouvoir venir là où Jésus a été baptisé, c'est un grand moment pour moi. C'est vraiment une expérience formidable.
Mais l'eau du Jourdain s'écoule à peine. Elle stagne, boueuse et opaque. Autour, la terre a soif. Les végétaux sont jaunis, le sol craquelé.
Quand on n'est jamais venu, on imagine une immense et large rivière avec du courant. C'est pas tout à fait ça. Elle est très étroite, la rive n'est pas toute proche. Et le lieu exact où Jésus a été baptisé, il n'y a presque plus d'eau. Donc oui, c'est différent de ce à quoi je m'attendais, mais c'est quand même unique. C'est génial d'être ici.
Depuis les années 70, le Jourdain a perdu quasiment toute sa vigueur. Le débit du fleuve a baissé de 98%. Et la rivière n'est pas la seule à s'assécher. Toute la Jordanie devient aride. Il pleut de moins en moins dans ce pays, presque entièrement recouvert de désert. L'eau se fait de plus en plus rare, de plus en plus précieuse pour les habitants. 50 litres d'eau par jour, c'est ce qu'utilise un Jordanien quand un Français en consomme le triple. Et quand on remonte le long du Jourdain, le paysage est censé se verdir. Mais même à l'extrême nord du pays, la vallée de Oum Qais est assoiffée.
Je suis Hassan Mikdadi, j'ai 52 ans et j'habite à Oum Qais depuis toujours. Alors ici, nous sommes sur le toit de ma maison. Regardez, la vallée en face de Oum Qais. Vous voyez, il y a des plantes, il y a des arbres, mais tout le paysage est à sec à cause du manque d'eau. Il n'y en a pas assez pour nous, alors imaginez pour nos plantes. Bon Dieu, ce que c'est dur cette sécheresse. C'est vraiment une souffrance.
Avant, j'habitais à Amman. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été très choqué par le manque d'eau. C'est inimaginable.
Moi, c'est Hassan. J'habite à Oum Qais. J'ai 51 ans. Dans la région, on manque de pluie, d'eau dans les nappes phréatiques et d'infrastructures pour la stocker. Donc la terre est très sèche. On est arrivé au bout de la plaine de Oum Qais. Devant nous, il y a le lac Tibériade. Le fleuve Yarmouk, qui fait frontière avec la Syrie, et le plateau du Golan. Au coucher du soleil, la vue est éblouissante. Le lac est à 15-20 km, c'est à une vingtaine de minutes en voiture. Mais c'est interdit d'y aller. Avant le conflit à Gaza, on pouvait s'en approcher de plus près. Maintenant, il y a plus de présence militaire à la frontière. Le lac Tibériade est contrôlé par Israël. On ne peut pas en tirer une seule goutte d'eau pour nous-mêmes. Malheureusement, c'est la même chose avec le Jourdain.
Quand
Selon nos recherches, la Jordanie est le pays qui connaît la plus grande pénurie d'eau au monde. Je m'appelle Yana Aboutaleb. Je suis la directrice jordanienne du bureau d'Ecopeace Moyen-Orient à Amman. Nous sommes une ONG environnementale tripartite entre la Jordanie, Israël et la Palestine. Notre objectif, c'est de protéger l'environnement et les ressources communes à nos trois pays pour faire face ensemble au réchauffement climatique. Pour commencer, notre région est naturellement sèche. À l'origine, on n'a pas beaucoup d'eau, que ce soit des eaux de surface ou des eaux souterraines. En tout cas, nous n'en avons pas assez pour satisfaire toute la demande en Jordanie. Avec le changement climatique, cette situation a empiré. Il y a encore moins d'eau disponible dans les 12 nappes phréatiques du pays. Même chose pour les cours d'eau, qui sont en majorité frontaliers avec la Syrie, Israël et la Palestine. Et même chose aussi pour la nappe phréatique partagée au sud avec l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'eau est devenue une ressource encore plus rare. Même s'il arrive qu'il pleuve beaucoup pendant l'hiver, à la saison des pluies, on a désormais de plus longues périodes sans précipitation. Et comme les journées sont de plus en plus chaudes, il y a de plus en plus d'évaporation. L'autre défi auquel la Jordanie doit faire face, c'est l'augmentation de sa population. Ça s'explique notamment par les différentes vagues de réfugiés qu'on a vues arriver ces dernières années. Donc, si on combine tous ces facteurs, vous voyez qu'on est dans une situation extrêmement grave. Malgré les efforts de la Jordanie, ça n'est toujours pas suffisant pour satisfaire la demande dans le pays. Donc, la solution, d'après nos recherches, c'est d'acheter les quantités d'eau supplémentaires dont nous avons besoin, au meilleur prix, dans les pays voisins. Et pour la Jordanie, ça signifie acheter cette eau à Israël.
Je m'appelle Saleh Rouchedat, je suis aujourd'hui à la retraite, mais j'étais ministre de l'eau et de l'irrigation quand la Jordanie a signé l'accord de paix avec Israël en 1994. Dans cet accord, la paix repose sur deux piliers importants, la question des frontières entre la Jordanie et Israël et celle du partage de l'eau. Regardez sur la carte. En Jordanie, on partage nos ressources. C'est le cas de la rivière Yarmouk, ici, qui vient de Syrie. On partage aussi le Jourdain. Ce fleuve vient du Liban, il traverse le lac Tibériade. Et ensuite, il marque la frontière avec la Jordanie et Israël, puis avec la Cisjordanie, jusqu'en bas, où il se jette dans la mer Morte.
En 1994, au milieu du désert, Israël et la Jordanie signent la paix. L'accord de Wadi Araba est historique. Il doit mettre fin à des années de tensions. La Jordanie laisse le contrôle du Jourdain à Israël en échange d'une partie de ses taux. En plus, l'État hébreu promet 50 millions de mètres cubes par an, puisés dans ses propres ressources. Sur le papier, les deux pays décident de travailler ensemble, avec un objectif: permettre à la Jordanie de gagner en indépendance. Le projet phare, un canal de la mer Rouge à la mer Morte, de quoi étancher la soif de la région. Un espoir qui s'effondre en 2021.
Nous misions beaucoup sur le projet de canal mer Rouge-mer Morte, mais il n'a jamais été achevé malgré les promesses. Israël avait d'autres projets et ne s'est pas impliqué dans celui-ci jusqu'au bout. Israël utilise tous les moyens en sa possession pour faire pression sur ses voisins et l'eau en fait évidemment partie. La possibilité qu'Israël puisse retenir l'eau et ne pas nous la donner, c'est un moyen de pression en soi. Israël a de l'eau, de la Méditerranée, de ses usines de dessalement. Avec ça, il pourrait fournir le monde arabe en eau. Mais ils veulent contrôler quand et comment elle est distribuée.
Quand l'eau devient une arme, une image de plus en plus nette depuis l'attaque du 7 octobre est la riposte israélienne à Gaza. Tous les soirs, les manifestants crient leur colère devant l'ambassade d'Israël, à Amman, la capitale. Un peuple, une nation, ici, plus d'un habitant sur deux est d'origine palestinienne. Le pouvoir marche sur un fil. D'un côté, la colère de la population, de l'autre, l'angoisse d'un incident diplomatique, car Israël peut fermer le robinet.
En plus de l'accord de paix de 1994, qui est gravé dans le marbre, la Jordanie a demandé à Israël de lui vendre 50 millions de mètres cubes en plus pendant 3 ans. Ce contrat s'est terminé en avril 2024. Le gouvernement jordanien a demandé à le renouveler, sans quoi on ne pourra pas satisfaire nos besoins en eau cette année. Il faut savoir qu'Ecopis est impliqué dans les négociations des deux côtés. Mais évidemment, à cause de la guerre, Israël retient l'eau en otage.
Rappelez-vous. En avril 2024, les forces jordaniennes ont stoppé des drones iraniens visant Israël. Eh bien, Israël y a vu une marque de soutien de la part de la Jordanie. Le pays a donc annoncé qu'il allait nous donner l'eau qu'il était supposé nous livrer depuis un mois. L'eau est un pilier essentiel de la sécurité dans le pays. Les gens en ont besoin évidemment pour boire déjà, dans leur vie quotidienne, pour l'industrie, l'agriculture, tous les aspects de la vie. En fait. Si on se retrouve sans eau, il y aura des tensions et ça va créer des problèmes. C'est pour être un peu plus indépendant en eau que des projets comme celui de l'usine de pompage d'Al-Dissi ont été lancés. J'ai eu l'honneur d'avoir suivi les premières études sur ce projet avant qu'il ne soit approuvé par le Conseil des ministres. Grâce à Dieu, le projet a été construit et il fournit à la Jordanie 100 millions de mètres cubes par an.
Ce sont les réservoirs avant la station de pompage. Dans la station, nous avons 5 pompes. Vous allez voir comme elles sont imposantes et bruyantes. Je m'appelle Mustapha Al-Mazna, je suis ingénieur au sein du projet DC Water. Nous nous trouvons actuellement dans la première station de pompage de DC, à environ 300 km au sud d'Amman et à une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Arabie Saoudite. On appelle ça la région de Madoura, on est vraiment en plein milieu du désert. La nappe phréatique de Dissi est la plus vaste du pays. Elle s'étend du nord de l'Arabie Saoudite au sud de la Jordanie.
Les deux pays ont décidé de signer un accord en 2015 pour partager et gérer correctement l'eau de la nappe d'Al-Dissi. Je m'appelle Yazan Bakayin. Je travaille pour l'Agence française de développement depuis 7 ans. Avec cet accord, ils ont délimité les zones de pompage de chaque côté de la frontière. Je ne dirais pas qu'il y a un conflit ou des difficultés autour de cet accord. Les choses se passent bien entre les deux pays.
C'est ici qu'on prend les échantillons d'eau pour les analyser.
L'eau est puisée directement dans la nappe phréatique de Dissi. Nous avons 55 puits de production équipés de pompes qui amènent l'eau jusqu'au réservoir que l'on voit juste là. Si on regarde le volume d'eau de la nappe phréatique, oui, il baisse avec le temps, mais bon, comme c'est très grand, c'est pas si flagrant. Certes, on utilise cette ressource qui n'est pas renouvelable parce qu'en Jordanie, on n'a pas vraiment le choix. S'il y avait une autre option, ce serait mieux parce que là, on prend de l'eau pour l'envoyer à 365 km d'ici. C'est la salle de contrôle. D'ici, on peut voir tout ce qui se passe. Donc là, sur cet ordinateur, vous pouvez voir la carte de la Jordanie depuis l'extrême sud où nous nous trouvons. L'eau part d'ici et elle est transportée jusqu'à Amman dans des tuyaux grâce à la gravité. Le projet d'ici est essentiel. Il permet de fournir 100 millions de mètres cubes par an. On sert plus de la moitié de la population d'Amman. C'est plus de 2,5 millions de personnes. Donc ces infrastructures, elles sont essentielles. Elles sont très précieuses pour nous et pour
Dans le prochain épisode,
écoutez, l'eau commence à arriver dans la citerne.
Immersion dans le quotidien des Jordaniens.